stressé.
La problématique. Okay. Bon, ben.
Bon, ben.
On y va, non?
Bon, ben, l'idée, c'était de se dire que le métier de libraire, c'est pas simplement de vendre des livres. Le métier de libraire, c'est de vendre des textes. Il se trouve que maintenant, les textes, les éditeurs les éditent principalement sous forme de livres. Voilà, c'est le... Depuis des centaines d'années, c'est comme ça qu'on arrête la pensée d'un auteur, qu'on permet de la suivre, qu'on la formate, etc. Et puis aujourd'hui, on voit bien que il y a une possibilité avec le numérique de penser le texte autrement. Il y a un encouragement des éditeurs. Il y a un encouragement à ce que les éditeurs numérisent. Alors c'est soit qu'ils soient, que ça soit un encouragement technologique, que ça soit un encouragement financier, que ce soit. Il y a de la numérisation côté éditeur, et donc la question de la commercialisation et de la vente de ce numérique, de ce format numérique se pose. Et du coup, la question du libraire aussi, puisque le libraire, il peut se demander aujourd'hui, ben, si le format numérique d'un texte que quelqu'un veut lire et qui est en vente, comment est-ce que moi je le propose à mes clients? Et l'enjeu il est important parce que autant quand le format poche est arrivé, ben, c'était assez facile de se dire je vais vendre le grand format, je vais vendre le format poche du même texte, du même auteur. Maintenant, si le format à vendre, si c'est un format numérique, il y a tout le métier du libraire qui passe par la mise en scène d'un stock. Comment est-ce qu'il l'a reproduit? Si quand on est sur son site internet, toute la problématique de la prescription et du choix, comment est-ce qu'il la met en scène juste sur une page, une première page ou l'enchaînement d'un certain nombre de pages, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fait autre chose avec une offre numérique, la simple proposition d'un moteur de recherche et puis et c'est tout. Donc comment est-ce qu'il prescrit? Et puis ensuite, puisque la librairie c'est aussi, en tout cas ça peut être un lieu physique qui est en centre-ville, dans une rue, un commerce. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec le numérique pour pouvoir le proposer aussi à quelqu'un qui vient chez un libraire, et comment il fait pour repartir avec un texte en format numérique? Comment est-ce qu'il fait pour repérer ce texte en format numérique dans l'offre du libraire? Comment est-ce que le libraire met ça en scène? Comment est-ce que demain, architecturalement, on pense une librairie autrement pour pouvoir présenter du numérique? Et comment est-ce que sur la partie e-libraire du libraire, c'est-à-dire son site internet, comment est-ce qu'il fait le maillage entre le format papier, le format numérique, s'il existe? Comment est-ce qu'il va utiliser, par exemple, les possibilités du numérique pour satisfaire une recherche et vendre peut-être un livre en papier et non pas un livre en numérique? Voilà. C'est toutes ces questions-là qui, à mon avis, se pose, et l'intérêt pour moi de se les poser, c'est qu'on est à une période intermédiaire où j'ai l'impression que les créateurs des auteurs aux éditeurs investissent sur le numérique, que la partie investissement sur le numérique de l'éditeur, elle est aussi financière en termes de transformation de sa chaîne, d'équipe, de vente, etc. Or, elle ne va pas avoir de rentabilité maintenant. Et donc, on a tout intérêt à penser comment est-ce que la vente du papier, l'économie, la chaîne du livre actuelle qui fonctionne sur le papier, comment est-ce qu'elle peut tirer profit des développements numériques maintenant, quitte à ce que ces développements numériques maintenant renvoient vers le papier, mais tout en préparant un moment où effectivement la vente de format numérique aura vraiment, vraiment décollé. Donc ça veut dire que il faut, du coup, c'est la question, elle est renvoyée et vers les libraires et vers les éditeurs. Elle est renvoyée vers les éditeurs en disant, au fur et à mesure que vous numérisez, qu'est-ce que vous faites de cette numérisation? Par exemple, sur la question des sites éditeurs, la question des catalogages, la question de... etc. Comment est-ce qu'on tire profit pour l'internaute du fait qu'un texte soit entièrement numérisé pour avoir une recherche beaucoup plus pertinente, des liens plus pertinents, une structuration du document qui est différente, etc. Tout en renvoyant sur le format papier, si le format papier a été imprimé et si le format papier est disponible, comment est-ce qu'on le... Et que ça soit sur une notion de stock parce que le livre existe, ou que ça soit sur une notion d'impression à la demande, si l'éditeur aussi a pensé à de l'impression à la demande, ça c'est côté éditeur. Et puisque il existe un réseau de points de vente qui est quand même extrêmement important, de libraires qui vendent des livres, comment est-ce qu'ils intègrent ce réseau en ce moment pour que les libraires aussi tirent leur épingle du jeu de ça? Et la question vers les libraires, c'est est-ce que vous voulez prendre conscience de ce qui arrive maintenant? Est-ce que vous êtes prêt à remettre en question la façon dont vous avez travaillé jusqu'à présent, en disant, voilà, libraires, on est un maillon qui permet un repérage, qui permet une prescription, qui permet d'offrir un choix. Et tout ça, comment ça se met en scène chez vous? Voilà. Là-dessus, après, on peut exposer et réfléchir sur le peu de choses qui se passent actuellement, puisqu'il se passe quand même des choses. C'est-à-dire, il y a, que ce soit une offre type celle de Cyberlibris en Fnac Téléchargement sur de la commercialisation sous forme de consultation, ou bien que ce soit une offre type Numilog où, en fait, on propose aux libraires d'une certaine façon de créer un site à côté ou en parallèle de son site pour faire de la vente d'une certaine façon par affiliation de livres à télécharger, mais avec un catalogue que le libraire, contrairement à son habitude, ne maîtrise pas forcément, puisqu'il ne fait pas forcément des choix, toute la question du conseil au sens large, c'est-à-dire pas le conseil je vous dis que ce livre-là est mieux que tel autre, ou ce livre-là est le meilleur, mais pas ce conseil-là, le conseil au centre où je... presque comme une pièce de théâtre, quoi. Je mets en scène une offre de texte, et puis vous, je la mets en scène de façon intelligente, de façon à ce que la personne à qui elle est proposée, elle puisse s'y confronter, réfléchir, trouver quelque chose auquel elle n'avait pas pensé, ou bien faire des liens, faire des... voilà, ou bien d'autres solutions type très pratiques, comme trouver des supports intermédiaires, type clé USB, SD card, ou quelque chose à ce moment-là qui se rapproche du coup un petit peu de la notion de stock et de la rematérialisation pendant un temps, une rematérialisation intermédiaire, mais qui permet de commercer au bon sens du terme, c'est-à-dire de proposer quelque chose que la personne va pouvoir prendre en main, repartir avec, etc. Ou bien la capacité à proposer un lien de repartir avec un lien de téléchargement ou repartir avec un code d'accès ou repartir voilà. C'est toutes ces questions là qui se posent par rapport à une source qui est l'édition qui passe en numérique.
Au moins deux pistes, si je ne me trompe pas. T'as la piste sur le site du libraire, etc. Il y en a une, on peut discuter un moment. Et tu en as une autre sur la librairie elle-même physique. Alors, ce serait peut-être bien de dire on attaque l'un d'abord et puis l'autre après.
D'accord.
Pour voir en librairie physique, ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer.
Alors, je pense que c'est. Alors, est-ce qu'on peut commencer par la première piste? Ouais, juste parce que pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui est illibraire, voire que illibraire, et ben, il est quand même libraire. Et donc, la première piste, elle pose directement la question des contenus, qui de toute façon, dans la deuxième piste, s'il n'y a pas de contenu, il n'y a rien à rematérialiser. Donc la première chose, c'est s'il y a du... Il faut que à partir du moment où il y a une production de contenu de texte en format numérique, qui le fait connaître, qui le propose au lecteur, qui le vend. On pourrait avoir une tendance. Et à mon avis, elle va se produire, c'est-à-dire des éditeurs qui se disent bah, « De toute façon, j'ai qu'à le faire moi-même en direct sur mon site, puisqu'il n'y a pas de stock, etc. Donc, je me débarrasse enfin de tout ce qui est, toutes les contraintes de distribution. Et puis, je vends en direct. » Voilà. Or, à mon avis, assez rapidement... les éditeurs vont se rendre compte que c'est pas la meilleure façon pour vendre beaucoup, pour faire connaître beaucoup, que de rester tout seul dans son coin. Ils auraient très bien pu le faire d'ailleurs pour le livre papier, finalement ils l'ont pas fait, ou en tout cas ceux qui, ils n'ont, pour pouvoir se développer, ils ont été obligés d'augmenter leur réseau de distribution. Là je pense que ça va être la même chose, c'est-à-dire que si un éditeur produit du contenu, il va falloir qu'il accepte que d'autres, que ce soit d'autres sites internet, que le site de l'éditeur, vendent ce contenu. Et donc organiser une diffusion, une distribution, mais il en vendra beaucoup plus et il le fera beaucoup plus connaître s'il partage, s'il lâche le fait d'être le seul vendeur que s'il veut absolument maîtriser ça.
Est-ce que la question c'est pas qui mais comment, c'est-à-dire qu'avant de se dire qui vend, c'est comment le vend-on, et ça pose la question de la structuration de la chaîne des contenus, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une production de contenu quelque part dans un format donné, selon des modes, une structuration donnée, pour que la personne finale soit en capacité de le présenter, de l'offrir, etc., il faut que déjà, en amont, toute une chaîne se structure pour ça. Et actuellement, tu disais tout à l'heure par rapport à Numilogue, oui, quel choix a le libraire par rapport au contenu numérique ? Pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler de choix.
Voilà, mais c'est pas grave parce qu'on va des solutions, on va les trouver. Mais dans un premier temps, il faut déjà que bien se dire que de toute façon, il y aura ce réseau de distribution. Et que même, je pense que bon, il y a peut-être certains éditeurs de musique qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en téléchargement musicaux tout en direct, mais ils sont pas nombreux, et assez rapidement ils se sont dit bon bah effectivement il faut que Virgin Mega me vende, il faut que c'est pas moi sur mon site EMI qui vais faire toutes mes ventes. Comme j'aurais espéré pouvoir le faire peut-être dans un premier temps, en me débarrassant de la grande distribution, etc.
EMI, c'est un producteur, c'est pas un éditeur.
Ouais.
Non, mais c'est, la différence est importante.
D'accord, je me suis trompé de nom, mais je ne connais pas bien la musique. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que les solutions, on va les trouver, mais il va y avoir besoin de cette multiplicité de points de vente ou de e-points de vente pour le livre aussi.
C'est ce que montrait en tout cas, ce que montrait depuis un moment, ce que montre depuis un moment, c'est Xavier Cazin, ex-Aurélie, c'est tout à fait ce qu'il montrait en fait, en montrant que son seul site, en fait, lui permettait de vendre des PDF, évidemment, mais comparé à sa vente de distribution globale de livres multilibrairie, les niveaux n'avaient rien à voir. Et l'une des raisons, selon lui, c'était justement parce que ces PDF n'étaient pas disponibles dans d'autres endroits que sur ce site. En fait.
Il faut multiplier les points d'entrée et effectivement.
Voilà. Or, il se trouve que les éditeurs, en tout cas français, sur le territoire français, ils peuvent déjà constater que ces points de vente, ils existent. Et du coup, c'est pour ça qu'alors on peut passer
Tu vas peut-être passer un peu vite là.
D'accord.
Oui, ils existent concrètement.
En même temps, ils existent, mais en même temps, c'est un canal numérique. On voit bien que demain, ces fichiers numériques auraient peut-être plus tendance à pouvoir être vendus sur Facebook ou MySpace pour prendre des trucs du moment, ou etc., que chez des libraires ou au numérique, sur Internet. Ils existaient peu, je dis là. Enfin, moi, si j'étais éditeur de texte numérique, d'accord, je le vends sur mon site, mais ce qui m'intéresserait surtout, c'est d'arriver à le vendre sur Facebook, parce que là, je sais que le public potentiel est vachement plus gros, et si je peux trouver un moyen de le vendre sur Facebook, dis, voilà, c'est là que je touche le maximum de gens. Bah, pourquoi j'irais le vendre chez le libraire ?
Vendre partout.
Oui, oui, je peux le démultiplier partout.
À partir du moment
mais...
où tu te mets en capacité de vendre un contenu après, tout en restant maître de ta source, il faut que
oui,
ce
mais
soit partout,
après, en fait. C'est du temps, etc., de négociation avec les uns, vu que c'est un canal de distribution. Un canal de distribution, on sait que c'est de la négociation sur des marges, etc. Donc, j'aurais tendance à me dire, je vais plutôt discuter avec Facebook qu'avec le site de ce libraire, et puis le site de cet autre libraire, et puis encore 25 libraires qui ont en plus une visibilité en ligne assez faible. Pour moi, ça, c'est aujourd'hui une grosse question qui est posée aux libraires, parce qu'ils ne sont pas montés dans le train du numérique, et que la marge devient encore plus forte, d'autant plus qu'ils sont dispersés, éclatés.
Investir Facebook ou MySpace ou autre, en créant par exemple des plugins, ils recommanderaient des livres sur les plugins. Un site, malheureusement, le nom du site à chaque fois m'échappe au moment crucial. C'est un site de recommandation où les gens disent par exemple, c'est pas que sur les livres, hein, mais par exemple, demain j'ai un dîner d'affaires, une dame monte trois paires d'escarpins, qu'est-ce que je dois choisir ? Puis les gens l'aident à choisir son truc. Et c'est extraordinairement bien foutu. C'est un site, d'abord l'ergonomie, il est magnifique. Il bosse maintenant avec Amazon. Est-ce que c'est, il faut passer par MySpace, ou est-ce que c'est aussi Amazon qui, par exemple, va se MySpace-iser ou se facebookiser en passant par des sites comme ça où les gens font le boulot, mais un travail que les libraires pourraient faire, parce que qui peut recommander un livre si ce n'est un libraire? Imaginons le type, il n'y a personne dans sa librairie à un moment donné, il est sur son ordinateur, il recommande un livre à quelqu'un, il vend son livre. Je veux dire, c'est pas forcément opposé, et ça existe déjà, et ça existe déjà, ça le truc, parce que on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais il y a des réseaux sociaux qui marchent vachement bien. C'est Yahoo Questions. Yahoo Questions, tout le monde oublie, mais ça marche très très bien, et ça peut très bien avoir des applications. Et si la personne à qui je pose une question, c'est un libraire, ben c'est plutôt pas mal, quoi. Et lui peut ensuite faire sa vente via sa librairie en répondant directement à ma question. Mais ça existe déjà, et il faudrait pas grand chose pour que les libraires puissent s'en emparer. C'est ça que...
Moi, je crois que la question, ça peut être aussi de se dire que l'éditeur, il va vendre chez qui veut le vendre. Alors si Facebook lui-même dit je veux le vendre, évidemment que l'éditeur, il a tout intérêt à y aller. Après, maintenant, le pourquoi est-ce que les libraires n'investissent pas cette sphère-là? Pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Eh bien, je pense qu'il faut ils en ont pas pris conscience, parce que du coup ça change quand même beaucoup leur ça change tellement leur travail, ça change tellement leur quotidien, que pour l'instant ils l'ont pas encore fait. Et c'est une des questions, et du coup pour moi c'est comment est-ce qu'on les aide à basculer.
Le dos desquels les sites vont vivre et qui vont en même temps supprimer l'emploi des libraires, parce qu'ils vont faire les recommandations à la place des libraires. Donc c'est un travail qui va continuer à être fait, mais qui sera plus payé parce qu'il sera pris en charge par des utilisateurs lambda qui vont faire vivre des sites web 2.0 sans être même récupérés. Donc le travail va continuer à être fait, mais sans être rémunéré. C'est un peu problématique.
Et en même temps, je ne pense pas que ce soit une suppression ou quelque chose qui passe sur l'autre. En même temps, le libraire physique existe. Alors, le problème, c'est si son marché se réduit drastiquement, il aura peut-être plus de livres à vendre un jour, mais l'emplacement existe.
Une idée qui pourrait fonctionner comme ça, ça serait celle-là, ça serait les stocks, on sait qu'ils sont chez les distributeurs. Donc il y a un stock énorme Interforum, Editis, à Malzerve, les livres sont là. Donc effectivement, un libraire qui investit l'espace numérique, qui se fait connaître, qui fait du conseil là, et s'il est capable de prendre la commande et de faire partir directement le livre du stock du distributeur chez le lecteur directement, à ce moment-là, ça veut dire que d'une façon assez simple, comme il est de toute façon ce libraire est déjà client du stock du distributeur, simplement au lieu de faire transiter et ça va prendre une semaine 10 jours le livre par chez lui pour le renvoyer ensuite chez le lecteur. Ouais, je parle du livre papier. Ça part directement, mais ensuite on peut évidemment imaginer la même chose alors avec le livre numérique, c'est-à-dire qui a le fichier source sur lequel il y a une DRM qui est mise ou pas. Je pense pas qu'un éditeur ou un diffuseur ou un distributeur d'un éditeur se mette à mettre 1000 fichiers source sur 1000 serveurs de 1000 petits libraires. Donc de toute façon ça veut dire que c'est là où ça change tout pour le libraire, c'est-à-dire je fais mon travail de libraire, mais le stock, ou en tout cas une partie du stock, je l'ai pas. C'est quand même moi qui fais la vente, mais c'est pas moi qui ai le stock. Et comment est-ce que du coup je mets en scène cette absence de stock?
Sauf que en même temps, même si tu n'as pas le stock, tu as la représentation du stock.
Ouais.
Donc la mise en scène, elle passe par encore plus de scénographie finalement, puisque même si tu n'as pas le stock physique, toi libraire, tu choisis quand même si c'est du numérique ce que tu as envie de vendre. Donc effectivement, tu scénographies ça.
Oui.
Je peux venir une seconde. Voilà, parce que pour moi, Bernard représente un exemple de libraire qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vu que la librairie de Bernard n'existe pas en réel. Elle est complètement virtuelle. Et lui, en fait, la mise en scène de son flux, etc., il est complètement dans cette problématique-là. J'aurais bien aimé que vous en parle.
Parler de la librairie comme
je vous accorde ça. Oui, avant, tu étais bibliothécaire, tu n'as jamais été libraire en vrai, en fait. Mais,
Je ne maîtrisais même pas le circuit des librairies.
Donc, c'est dommage parce que tu ne peux pas nous faire la comparaison entre l'un et l'autre, vraiment.
Mais avant d'être bibliothécaire, j'étais cuisinier. Donc, moi, en fait, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'inconscience. Et qui me permet de passer des choses que d'autres me mettraient des freins.
C'est moins freiné par l'économie aussi.
Moi, en fait, je dois apprendre à gérer l'entreprise. J'ai une SRL derrière. Je dois apprendre à maîtriser le circuit du livre. Et surtout, j'ai dû apprendre en fait, comment le client il venait sur Internet. Qu'est-ce que c'était une lecture de page web pour moi? Est-ce que je pouvais mettre de la documentation? En fait, c'est pas du tout ça. Le lecteur sur Internet, il ne voit pas grand chose dans une page. Vous pouvez lui mettre plein d'outils, plein de... Non, il ne voit qu'une chose. Il voit la touche où il utilise toujours le même outil. Donc, c'est petit à petit apprendre ça. Et je pensais que moi, la médiation, parce que j'étais très connu quand même dans le monde du polar, et quand même avant, j'ai un passif. J'ai animé pendant 6 ans le site Mauvais Genre. Donc, j'ai un réseau de gens qui apprécient quand même ce que je fais sur Internet, qui se comptent quand même en milliers de personnes, quoi. Vous tapez mon nom sur Google, vous allez en générer, ça va générer de la requête quand même. Donc je m'étais dit, tiens, je maîtrise le polar, mes premiers clients seront polar, je vais reconstituer la base de données, je vais reprendre les interviews, je vais faire des rencontres virtuelles, je vais créer des dossiers thématiques, donc je vais remettre ça en place, je vais avoir raté. Les clients polar, ils sont pas que là. Maintenant, ils commencent à arriver et j'ai des clients très fidèles en polar et je commence à avoir une majorité de commandes sur le polar. Mais mes premières commandes, c'est des livres de cuisine. Après, c'est le rayon écologique que j'ai fait. Donc, c'est des gens qui viennent par Google. Donc, j'ai appris le référencement via Google. J'ai appris que les flux RSS, les moteurs de recherche, ils adorent ça. Donc, j'ai un avantage sur les librairies en ligne. Donc, je joue à fond cet avantage. En référencement, dès que j'entends un titre à la radio, je ne l'ai pas. Je regarde s'il m'intéresse, je le référence. 5 minutes après, Google, il l'a référencé. Donc, j'apprends sur des petites choses comme ça. L'indexation aussi, le positionnement sur Internet. Faut avoir un URL qui écrit le titre et le nom d'auteur de préférence. Avoir des mots-clés bien référencés dans la page web. Donc, c'est des petites choses. Je vais sur des sites de référencement, j'apprends ça. En même temps, j'apprends mon métier j'apprends à gérer une entreprise. Mais bon, pour l'instant, une librairie sur Internet. Par exemple, si je disais que je faisais. Cette année, je pense que je vais faire entre 40 et 50 000 euros de chiffre d'affaires en vente de livres. Donc, en faisant ça de chez soi, à côté de son lit, c'est beaucoup. C'est en ayant investi 0 euro dans un outil, je pense que le rapport investissement il est 100 fois meilleur qu'Amazon. Parce que moi, si je disposais de fameux investissements d'Amazon, peut-être je pourrais négocier d'autres marges avec mes fournisseurs et je pourrais aussi m'amuser à faire ce qu'ils ont fait sur Internet. Pour l'instant, moi, je fais la livraison gratuite, donc ça mange la moitié de la marge. Mais sans livraison gratuite, vous n'existez pas sur Internet. Moi, j'ai commencé à vendre des livres à partir du moment où j'ai mis une livraison gratuite. Donc, moi, je ne suis pas partisan de la livraison gratuite. Ça mange entre 50 et 60, 10% de ma marge. Donc, quand je vends un livre, des fois, je vends un livre, 1 euro. J'ai été chercher en librairie, j'ai créé des notices, j'ai créé des réseaux autour. Donc, ça ne rapporte rien du tout. Mais sans ça, on n'existe pas. Et je pense qu'il y a des librairies qui ont respecté. Je te dis, on arrête la livraison gratuite à partir. Moi, je ne la fais qu'à partir de 15 euros. Mais ces librairies, déjà, en amont, elles ne marchaient pas sur Internet. Par exemple, Ombre Blanche, moi, j'ai créé ma librairie parce que j'ai compris qu'Ombre Blanche utilisait Scrip et OS Commerce. Et j'ai compris comment faire de l'interopérabilité entre Scrip et OS Commerce. J'ai, Moi, en fait, je maîtrise un peu le PHP, mais pas assez. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir ma famille, un môme qui maîtrise bien le PHP. Je dis, tu ne peux pas me créer une passerelle qui va copier telle table sur telle table. Je dis, mais ça, c'est un jeu d'enfant. C'est pour ça que tous les fournisseurs en bibliothèque ou les prestataires qui font payer énormément pour faire des requêtes sur les bases de données ou pour développer des petits programmes, moi, je sais ce que c'est derrière. Peut-être qu'ils ne me codent pas parfaitement les données, mais ça, c'est des programmes qui marchent très bien. Au bout d'un an, ils tiennent toujours. Donc, dès que j'ai compris ça, j'ai vu ça sur Ombre Blanche. Je me suis dit, moi, je sais faire la médiation et je sais peut-être la faire mieux qu'eux. Je me suis dit, donc, il ne me reste plus qu'à aller trouver un fournisseur. Ah ouais, je suis bibliothécaire, je vais aller voir la SSL. Donc, je m'étais engueulé en bibliothèque avec ma responsable parce que juste avant, j'avais invité Bruno Rive. Il y a 2 ans et demi, une journée sur l'encre électronique en BDP avec un parterre, c'était bourré la salle, pas un responsable, pas un décideur, pas ma responsable. Et le lendemain, je fais une réunion, on parle du réseau de professionnels, j'ai plus rien de droit de dire. Alors je me suis dit là, j'ai pas ma place en bibliothèque, donc il faut que je trouve une autre solution. Donc là, j'ai été voir la SSL, ils m'ont dit bien sûr, on peut vous faire 30% de marge, mais nous, on ne croit pas à la librairie en ligne.
C'est qui celui-là? Je sais pas.
La SFS, c'est un grossiste parisien en fait. C'est le gros site des petits libraires parisiens qui vont là. En fait, l'avantage de la SFS, c'est qu'ils font. C'est que, contrairement à un comptoir, on a accès à tous les éditeurs, ils référencent aussi bien les petits que les gros, et avec une marge en général qui est 30% identique, sauf sur certains qui est moins importante. Donc, comme ils sont placés rue Danton, au cœur de Paris, aujourd'hui, c'est un grossiste qui, quand même, réussit à travailler avec des libraires, alors qu'il n'a pas un esprit très libraire, il a un esprit plutôt bibliothèque, tranquille.
D'accord. Juste une question pour comprendre, en fait, comment tu fais. C'est-à-dire que tu reçois tes commandes, et puis tous les jours, tous les 2 jours, tu vas chez ton grossiste récupérer tes livres et tu les envoies après, c'est ça?
Même pas. En fait, je reçois les commandes, je vérifie déjà leur disponibilité dans le Dilicom.
Ouais.
J'ai un compte sur Dilicom, je vérifie leur disponibilité. Puis après, je vais dans le catalogue de SFL, je crée mes paniers. Donc, j'ai des systèmes de paniers. Eux-mêmes, ils vont dans leur magasin, ils cherchent les livres. Et le lendemain matin, je reprends la première heure, je retire mon panier et je fais mes commandes en fait, chez moi. Après, simplement, on va par enveloppe.
D'accord.
Ou par Colissimo s'il y a des commandes au-dessus de 50 euros. Donc en fait, pour l'instant, j'ai pas un gros réseau de clientèle, mais j'ai déjà 1000 clients, un peu plus de 1000 clients en un an. Et je pense qu'on dit qu'il faut à peu près 200 clients, 200 gros clients pour faire vivre une librairie. J'ai entendu ça. Une petite librairie peut-être. Et moi, une petite librairie. Mais moi, je ne savais pas qu'il y a des lecteurs qui achètent plus de 1000 euros par an. Je ne savais pas que ça existait. Moi, le bibliothécaire, j'achète des livres, mais j'ai 10 livres par an. J'achetais 10 livres par an, pas plus. Et non, il y a vraiment des gens, ils achètent beaucoup, énormément, en continu. Moi, j'ai des gens qui chroniquent des livres et 2 jours après, ils achètent. Je me dis, mais ils sont bizarres, ces gens-là. Non, parce que c'est des passionnés qui achètent pour faire cadeau. Donc, il y a vraiment des amateurs de livres. Et en fait, petit à petit, je pense qu'il y a c'est le côté. Moi, on ne me considère pas comme un libraire en ligne. Je me considère vraiment comme un libraire de proximité, comme un libraire qui donne des conseils, comme un libraire qui a tissé des liens. Par exemple, tous les messages que je reçois en dessous, c'est vraiment des messages de gens, des messages de soutien très importants. Quoi. Donc c'est, je sais pas...
Économiquement, comment tu vas tenir sur la durée? Parce que j'imagine qu'avec les charges, etc., c'est surtout un problème d'économie par rapport à ton propre poste que tu dois finalement...
Alors en fait, c'est vrai que 50 000 euros de chiffre d'affaires, on ne vit pas avec ça. Mais en fait, moi, je n'ai pas joué la carte librairie complètement. La librairie, pour moi, en fait, oui, c'est la carte de la formation en bibliothèque. Donc ça, ça me génère la formation plus la création de site internet me génère entre 25 000 et 30 000 euros de prestations de services. Mais là, c'est 100% pour moi. Donc c'est ça qui me permet. En fait, j'ai constitué mon tableau de bord. En fait, mon expert comptable m'a demandé de monter en prestations de services jusqu'à une certaine limite pour avoir une garantie de tenir un temps, le temps moi, que j'estime, c'est 3 ans. à partir de ce délai-là, si je n'arrive pas à monter au-dessus de 120 ou 130 000 euros pour avoir assez minimal, j'arrête d'accord. Mais je pense que la courbe est ascendante. Donc, si en projection, normalement, j'ai fait des projections avec vous, donc normalement, en septembre, je devrais dépasser les 6 000 par mois. Et si j'ai fait comparatif de l'année dernière de décembre, je devrais dépasser 10 à 15 000 euros en décembre. Donc, je suis pas loin de la viabilité sur la librairie. La seule chose pour moi qui aurait été bien, c'est que Amazon soit condamné pour les librairies. J'aurais récupéré ma marge.
Il a été condamné, hein, mais...
Oui, mais bon, et voilà.
Mais c'est vrai que la question des supports est un vrai frein à l'entrée des libraires sur le.
Moi, je pense que le problème des libraires en ligne, c'est que, bon, moi, j'ai pas peur de tester, d'expérimenter. Donc, j'ai la casquette informaticien, j'ai la casquette médiateur du livre, j'ai la casquette commerçant, je sais faire des choses à côté qui me permettent de financer l'activité. Donc, au bout du compte, c'est comme une aventure. Je me suis mis 2-3 ans là-dedans et puis j'expérimente et puis je vais voir si je suis capable. Parce que comme les bibliothèques n'ont pas permis de faire cette médiation sur Internet, je me dis, est-ce que moi je suis capable de la faire, cette médiation, de me la financer, cette médiation? Parce que mon but, c'est ça, c'est faire la médiation sur Internet.
Forcément, je ne veux pas dire le contraire en fait. En fait, l'effort que tu fais, la médiation que tu fais, c'est ça qui crée ta tour. J'ai bien aimé ta façon de dire que tu étais un libraire de proximité. Et c'est entièrement ta médiation. Pour toi, c'est cette médiation que tu fais sur le livre, ces façons de faire des fiches, etc. C'est ça qui crée vraiment le lien.
C'est toutes les tables interactives que je crée, c'est les interviews, les rencontres virtuelles. J'essaye en permanence de voir quels sont les outils que je peux utiliser, par exemple la Google Maps, mais là j'étais en réunion, je vais faire une timeline avec les documents historiques, donc je vais me faire un système de... Donc j'essaie de trouver des outils qui permettront en fait après de...
C'est une super idée.
Quoi ?
C'est une super idée, la timeline et les documents historiques en fait.
Voilà. Donc de trouver des outils, et là j'ai un petit avantage au niveau, par exemple, des autres librairies comme Amazon et compagnie, c'est que je redevais vient à ce que j'étais avec mon défunt avant, ultra en permanence en phase avec ce que les gens pourraient attendre et très très dynamique. Et moi, pourquoi les gens aussi commencent à acheter des livres? Moi, j'ai la chance d'habiter à côté de la bibliothèque, la poste du 15e, qui est une des plus grosses postes parisiennes. Le lendemain, la majorité des livres, ils sont à destination. Donc les gens, quand ils commandent un livre disponible, le lendemain, ils sont dans les Alpes, ils ont le livre dans la boîte. Et ça, ils sont assez, ils sont scotchés. Bon, après, moi, j'ai un petit problème avec la SFL, c'est que quand les livres ne sont pas disponibles en stock, la SFL, ils ont un circuit qui est plus long qu'un comptoir de livres, des choses comme ça. Mais finalement, au bout d'un moment, ce temps un peu plus long, il se gère avec les clients. Parce que moi, je ne fais pas de message anonyme. Quand j'écris, je tape chaque fois le message. Je ne fais pas du copier-coller. Donc ça, les gens le sentent. Il y a un suivi. Quand je suis en retard, quand je suis au bout de 10 jours, j'explique, j'ai fait un petit message, je suis désolé, il faudra patienter quelques jours supplémentaires. Et ces relations avec des librairies en ligne ou des commerçants en ligne, ils n'ont pas l'habitude. Et ça, c'est, je reçois chaque fois, au lieu de me faire engueuler, un message de remerciement.
Est-ce que, je pose la question, est-ce que ça pourrait presque vouloir dire qu'en fait, être libraire en ligne, ça n'a rien à voir avec être libraire physique? Est-ce que tu penses que le travail que tu fais, je ne sais pas combien d'heures ça représente par jour, etc., mais dans ce que tu décris de ton expérience, on a vraiment l'impression que c'est une... C'est pas un plein temps parce que tu fais des choses à côté, mais malgré tout, je pense que tu en fais beaucoup pour ça. Et est-ce que toi, tu penses que ça pourrait être se faire en même temps qu'une librairie physique réelle?
En fait, le métier de libraire, quand même, c'est un métier physique, de contact avec le public. Donc, c'est un métier, je peux me le représenter, mais je ne l'ai pas pratiqué. Donc, j'aurais du mal à...
Sophie pourrait répondre, parce qu'elle est libraire.
En fait, moi, j'entends ce que dit Stéphane, c'est-à-dire de dire les libraires ne se saisissent pas forcément, ce que dit jeune homme, ne se saisissent pas forcément des multiples sites de communauté, mais simplement, on utilise le Internet, le numérique, tout ça, pour des raisons personnelles, hors de son temps de travail. Il est hors de question, dans son temps de travail en librairie, Moi, je suis que salarié, donc c'est encore différent, mais il est hors de question. On a trop de travail physique, justement, de gestion, de logistique et d'accueil du public pour pouvoir se permettre, en fait, de passer autant de temps, à moins que ce soit, en effet, un projet personnel, un peu du style du tien, en fait, de pouvoir coupler les deux, avoir ce temps-là. Mais c'est vrai que on va dire que le souci logistique, pour toi, il est sur la création de code et des choses comme ça. Nous, ça va être faire une vitrine, trouver des... Et peut-être, il s'exprime différemment au niveau technique, mais pas forcément au niveau de l'intention. Pour moi, tu as tout à fait une attitude de libre. Par contre, en effet, comment avoir à la fois la gestion de ton magasin physique plus un tel engagement? C'est pour ça qu'on a besoin de prestataires. Mais on a du mal avec nos prestataires aujourd'hui, c'est vrai.
Enfin, c'est pour ça que moi, je trouve que quand on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça décolle pas, pourquoi est-ce que les libraires n'arrivent pas à reproduire cette médiation qu'ils font dans leur librairie au niveau d'Internet, pour moi, c'est parce que là, il y a une rupture. Et cette rupture, c'est le fait de refaire le même travail sans stock. C'est-à-dire, le stock, il n'est pas chez toi. Le stock n'est pas dans ta chambre et les gens ne rentrent pas, et voient, etc. Et pourtant le relationnel... Non, mais le relationnel qui se crée, il est très très proche du relationnel qui se crée avec les clients de la librairie. Mais le problème, c'est qu'il faut...
C'est la technique, en fait, de l'outil qui n'est pas le même. Le stock ou pas le stock, c'est la nature de l'outil. Pour moi, travailler en magasin et tout, c'est très différent qu'un informatique. Enfin...
La rupture, elle est sur le stock, puisque c'est parce que tu as un stock que tu n'arrives pas à le faire. C'est le stock, c'est ton métier.
Si mon employeur m'accordait la moitié du temps stock et accordait un temps plein justement sur la gestion d'un site et tout, ça serait autre chose. Mais tu vois bien qu'il y a très peu d'employeurs qui souhaitent le faire ou qui même comme c'est pas rentable, qui peuvent se permettre. C'est pas rentable, ce que Bernard. Voilà. C'est simple.
Est-ce que ça veut dire, en fait, si j'écoute l'expérience de Bernard et j'écoute l'expérience de Sophie, et de me dire que, en fait, donc dans la librairie physique aujourd'hui, c'est pas possible, mais par contre, ça peut être une sorte de montée en charge en se disant, c'est une personne qui s'y prête en début, en tiers-temps, et qui va monter sur 3 ans avec un vrai plan de développement.
C'est pas possible, non, mais c'est un choix aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, c'est un choix. Mais on sent bien que tous les libraires font eux-mêmes, ils sont dans leur librairie physique, et ils n'ont pas le temps physiquement de faire du numérique.
Moi, j'aurais le temps si mon site était mieux fait et était plus simple. Si mon site était mieux fait et était plus souple. Franchement, il y a plein de choses à faire. Par exemple, c'est plus facile de gérer un blog, c'est beaucoup plus souple qu'un site de vente aujourd'hui tel que nous, on l'a choisi en tout cas, qui a été sûrement bon à m'a choisi autre chose. Mais en tout cas, c'est l'outil. Moi, je trouve que l'outil n'est pas adapté aujourd'hui à mon besoin en tant que libraire. Et que ça me demande beaucoup d'investissement financier d'avoir un outil à mes besoins parce que je suis libraire et je ne suis pas informaticienne. Et en effet, à la différence de Bernard, c'est en effet un champ que moi, en tant que libraire, un outil que j'ai avoir du mal à manier. J'ai besoin justement d'une... mais ça, c'est que mon avis. J'ai besoin justement d'une entreprise qui me permette justement de m'offrir un outil de qualité et je n'en ai pas aujourd'hui.
Mais en même temps, ce que j'écoute dans Bernard, c'est que l'outil, quelque part, c'est des bidouillages et que le plus important dans ce qu'il dit, c'est la médiation. Alors, les outils, les gadgets, les expérimentations, c'est très important, mais ça prend encore plus de temps qu'un outil qui peut être façonné et exploitable que tu peux acheter directement.
C'est plus important.
Oui, oui, mais
c'est la question de l'introduction de nouvelles compétences dans la librairie. Donc on voit bien qu'on a un moment où les libraires ont complètement intégré le fait que la définition même du libraire en ligne entre à l'intérieur même des équipes. Et ça demandera un peu de temps pour que les libraires puissent.
Il y a une donnée quand même fondamentale.
Tu peux recruter quelqu'un qui a une compétence à la fois aussi un peu informatique, technique, webmaster et autre. Enfin, on voit bien qu'il y a.
Il y a une donnée aussi qui est fondamentale, c'est pas que le stock. C'est, vous avez une librairie, vous êtes positionné à un endroit stratégique dans la ville qui a été choisie et avec un stock visible. Sur Internet, il faut savoir prendre ce stock visible sur les moteurs de recherche par le maximum de gens et après quand les gens ils rentrent sur votre site, les rendre accessibles. Donc ça, c'est des compétences. Moi, je pensais que je savais le faire et je me suis aperçu que je ne savais pas du tout le faire. Mais par contre, il y a une chose que je sais très bien faire, moi, c'est la chance, c'est je sais référencer. Donc vous pouvez taper beaucoup de titres sur Google, je vais dépasser Amazon, je vais dépasser la Fnac. Donc ça, moi, c'est ma chance, c'est que je sais travailler ça. Parce que l'outil que j'utilise le permet assez facilement. Mais vous allez faire un catalogue en ligne, par exemple, là, la librairie à côté de chez moi, Le Vivant, ils viennent d'avoir leur librairie en ligne. Bon, déjà, ils ont des frais port à 8 euros. Un catalogue, quand on rentre dessus, fait un peu peur quand même. Et à mon avis, vous pouvez toujours taper dans Google pour arriver sur ce catalogue. Vous allez arriver en 45e page de Google. Donc, qui va utiliser ce catalogue? Les clients du Divan, qui vont peut-être utiliser cet outil pour réserver, pour contacter le libraire. Mais le coût de l'outil par rapport à son débouché commercial, c'est hors de prix. Et moi, je voudrais bien savoir combien Ombre Blanche elle a payé pour se faire installer SPI POS Commerce.
C'est un vieux site, Ombre Blanche. Hein,
ouais, mais il a récupéré. Ouais, mais mine de rien, ils payent Electre. Ils ont dû se faire développer un récupérateur de notices pour l'intégrer, ou ils n'intègrent pas les notices parce que les notices restent chez Electre. Puis ils ont quand même dû faire le site, ça lui coûtait quand même assez cher. Peut-être c'est des librairies, ils ont des subventions, ils ont des moyens.
Toutes tes notices, tu les fais tout seul?
Je les copie sur les sites des éditeurs. Et quand j'ai la chance, je récupère les flux. Donc il y a quelques éditeurs qui ont des flux.
Mais tu vois, on a les mêmes façons de faire. C'est-à-dire utiliser l'espace pour faire communauté, tout ça. Seulement nous, ça n'est pas notre métier principal. Enfin, du moins, on ne sait pas comment faire sur Internet. Donc on peut utiliser Internet pour notre goût personnel, de façon personnelle. Donc, mais professionnellement, par exemple, on ne peut pas traduire une demande technique à un prestataire. C'est-à-dire, on peut dire je veux la visibilité, mais on ne peut pas dire à notre prestataire vous devez faire ça et ça et ça pour la visibilité. On est obligé de s'en remettre à eux, en fait, parce qu'on n'a pas en effet cette compétence. On peut avoir le goût, mais quand même, ça demande. Enfin, moi j'aime bien, mais je n'ai pas la compétence technique. Alors, je peux faire des demandes aux prestataires, un peu cibler tout ça, et je ne peux pas évaluer ses réponses. Et je ne peux pas évaluer son efficacité. Donc, je veux lui demander une meilleure visibilité, des meilleures couves, des choses comme ça, et je ne peux pas faire la demande technique, je n'ai pas ce savoir-faire.
C'est vrai que les SS2I de libraire, on a le sentiment qu'elles sont encore très informatiques, elles n'ont pas intégré les notions de point zéro, et c'est vrai que les libraires sont très dépendants des sociétés avec lesquelles ils travaillent pour les outils de gestion, etc., etc., et que malheureusement... Il y a un gap entre la réactivité des outils en ligne et les prestataires.
C'est en même temps un grand classique dans tout ça. C'est-à-dire qu'on croit que les outils vont résoudre nos problèmes. Ce ne sont pas les outils qui sont importants. D'abord, ce sont les relations,
c'est
les gens.
Oui, c'est la formulation des problèmes.
Et voilà. Et ce que montre Bernard, pour moi, pour éclairer un peu les libraires, c'est de se dire que l'essentiel, c'est pas d'avoir un prestataire pour qu'il fasse mon site et qu'ils vivotent et qu'ils disparaissent, mais l'essentiel, c'est d'intégrer une nouvelle compétence de libraire avec comme le fait Bernard. Il a un vrai plan, c'est sur 3 ans, il y a une progression, etc. On voit tout à fait que ça peut être intégré dans un plan de libraire, avec un vrai plan, une montée en charge sur 3 ans, des objectifs atteignables ou pas, des trucs de référencement, avec quelqu'un qui a une vraie compétence pour l'accompagner, et dont le vrai boulot, c'est ça, c'est la médiation.
C'est le fond, ce plan-là. Mais quand ton plan te montre clairement qu'au bout de 3 ans, tu ne seras pas rentable...
Et pourquoi ton plan? Pourquoi les plans?
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce qu'espère Bernard en même temps.
Non, bien sûr.
Mais,
c'est limite. Hein.
Mais en même temps, il y a.
Mais quand tu montes une librairie, c'est toujours risqué aussi. Ouais. Des fois, c'est, ouais. Et c'est limite. Mais
la
différence.
Quand tu dis que le Divan, par exemple, ouvre son site internet et que son site est déjà vieux et.
Cher
et vieux. Non, il a dit vieux. Il a dit cher et vieux. Ça pose quand même question. Voilà.
Pour moi, la différence, c'est que le site internet du Divan, il achète 185 euros par mois.
185 euros, c'est...
C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas fabriqué le site, ils ont pris un site clé en main, et le coût de ce site, sous forme de location, utilisation de base de données, etc., c'est 185 euros par mois. Ensuite,
mais...
Hein ?
un coût par livre vendu ou pas?
Ouais, il y a un plafond et au-dessus, si tu fais de la vente en ligne, tu as un plafond et au-dessus, tu as un pourcentage.
Par exemple, pour les hôtels, oui. Ils utilisent ça. Depuis longtemps, ils ont utilisé des plateformes sur lesquelles les hôtels sont référencés. Mais les plateformes, elles prennent 15%, ce que propose aussi Amazon. Amazon, vous créez votre catalogue chez eux et puis ils prennent 15%.
Non, alors, pour être très précis, eux, c'est un dégressif. C'est-à-dire, à partir de 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, ils ont une commission de 4,5 et ensuite, ça descend 3,5, 2,5, on est sur des chiffres de cela. Mais c'était pas ça le plus important pour moi, c'était de dire que ce site-là, comme ils ont un stock, et c'est leur métier, le site a été pensé par rapport à un stock. Comment je vends un stock? Et donc, effectivement, il n'y a pas de développement inventif, créatif, comme tu fais, qui déplace la relation libraire, la médiation par rapport à un texte, qui le déplace sur autre chose que je vends du stock. Sauf que bon, ils ont quand même, il faut noter quand même que le site du divan, tout vieillot qu'il soit, donc il vend du livre numérique en téléchargement. Et là, si tu l'as pas vu, ça pose bien la question de comment on le met en scène. Parce que ça, c'est par contre, c'est très nouveau. Et il y a un livre de chez Payot Rivage, il y a un livre de chez Minuit, il y a un livre de chez Actes Sud, tout ça, qui propose en vente en téléchargement.
Ouais, mais tu vois
donc on est en.
Hein? La définition du mot vente, c'est pas juste qu'il soit visible en Dimitri, c'est justement tout ce travail que tu connais très bien de justement créer du réseau, créer de la visite, tout ça. Et en fait, le fait juste d'avoir une page sur Internet, ça ne s'appelle pas de la vente. Internet, c'est plus compliqué, et je pense que les libraires ne se sont pas rendus compte et ne se rendent pas forcément compte, et maintenant on commence à comprendre que juste la présence, et justement c'est tout ce que nous montre ce qui est absolument personnel de Bernard, est indispensable, et il vaut mieux à la limite ne pas avoir de page ou alors juste une page vitrine. Et ils n'ont pas compris la différence maintenant on comprend la différence entre la page vitrine et la page vente, des choses très différentes, et qu'en effet aujourd'hui notre prestataire ne peut nous proposer qu'une page vitrine. Voilà, et s'il faut en prendre acte. Et ma foi, après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire.
C'est quand même le libraire qui choisit son prestataire. Hein. Et donc les libraires, ce sont des chefs d'entreprise, et ils font des choix, ils choisissent leur fournisseur, leur prestataire, etc. Mais la question, c'est peut-être, j'y avais pas pensé, mais la discussion maintenant me fait penser, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire, Si ce chef d'entreprise se dit j'investis sur la partie numérique et j'oublie que j'ai un stock et que je dois le rentabiliser, je l'oublie et je construis mon business plan, etc., sur un an, deux ans, trois ans, en disant je refais mon métier, mais je travaille sans stock dès maintenant. Alors, au point où on en est, effectivement, peut-être qu'il faut aller chercher son livre à la SFL, l'emmener. Mais moi, je crois. Mais moi, je crois que si on te proposait une solution qui fait que le livre il part directement des entrepôts de la Sodis et il va tout de suite dans les Alpes. Pour un prix intéressant.
Il a intérêt à donner son fichier client directement au distributeur.
Il peut très bien ne pas le donner. Il peut très bien ne pas le donner. On peut très bien trouver des trucs, mais
par exemple, moi je connais pas mal de gens qui vendent des livres sur Internet, mais c'est pas leur activité principale. Par exemple, site administratif où ils vendent des livres pour les concours et ils passent par Amazon, et quand même ces gens-là arrivent à faire jusqu'à 1000 euros par mois ou des choses comme ça. Donc c'est pas des petits chiffres, comme c'est des activités complémentaires, pour eux ça se passe bien. Et j'ai déjà parlé à la SFL, vous ne pourriez pas être prestataire de service dans ce cadre-là, mais déjà ils n'arrivent pas pour les libraires, alors faire du micro comme ça, ils sont tombés. Et la Sodis, vous leur dites ça, ils vont rigoler.
Les distributeurs ne veulent absolument plus faire de commandes égrenées, donc c'est pas...
Bah écoutez, en plus c'est l'heure. On n'a pas traité le sujet du tout. La mise en scène du numérique dans la librairie, mais c'était super. Heureusement qu'on a récupéré Bernard, parce que tout est parti.
Moi je pense qu'on a quand même un peu traité, parce que d'une certaine façon c'est ce qu'il fait.
Oui, c'est ce qu'il fait.
Donc.
Là, c'est les outils numériques au service du livre papier.
Et vous savez, moi j'ai été contacté par des éditeurs, peut-être ça se voit, mais pour faire une librairie de livres téléchargés, pour finalement des livres qui ne sortiront pas en poche, mais qui sortiront sous format numérique avec des éditeurs qui ne veulent pas mettre de verrou sur leur livre. Donc pour l'instant, c'est en attente parce qu'elle peut arrêter de me faire bosser à l'œil et faire un projet financé, etc. Mais si ça se fait, je pense que je pourrais avoir un nouveau débouché. Et en fait, je pense que c'est ça sur Internet, il faut être ultra mobile. Il faut rester sur ses bases, mais il faut avoir des projets annexes pour financer ces bases-là. Et puis, il faut pouvoir fluctuer. Et quand on est dépendant de prestataires de services, ben, on est quand même assez lié quand on ne maîtrise pas la publication sur Internet, l'installation de scripts, de plugins, le traitement d'image, le traitement d'audio, filmer les intervenants, ben, ça commence à faire énormément de choses. Et ces multiples métiers peut-être qui devraient être enseignés dans le cursus du libraire, quoi. Et dès le libraire.
Ouais. Vas-tu intervenir à l'INFL finalement?
Je n'ai pas relancé. J'attends qu'elle revienne vers moi. Ça m'a un peu traumatisé.